bénit Dieu pour la direction dans laquelle il nous amène dans ce culte. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait du bien ce matin dans le culte? Ben moi aussi. Et ça fait du bien d'être dans la présence de notre Dieu. Ça fait du bien d'entendre la voix de Dieu. Ça fait du bien de se laisser conduire. Et ça fait du bien de voir combien le Saint-Esprit dirige ce culte. Combien il nous conduit du début jusqu'à la fin. Et je crois que ce matin, il y a vraiment une direction qui est donnée où Dieu veut nous amener. Et j'ai une grande joie d'être au milieu de vous. Parce que je crois que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que nous dit la parole, et Dieu est là. Amen. Alors si tu as un doute, demande à ton voisin, est-ce que toi tu le sens? Et s'il te répond oui, ça va virer ton doute. Et le thème de ce matin qu'on va pouvoir partager ensemble, c'est expérimenter la restauration. Expérimenter la restauration. On va parler ensemble ce matin de expérimenter et restauration. Expérimenter dans le sens de découvrir. Expérimenter dans le sens de découvrir quelque chose de nouveau. Expérimenter dans le sens de vivre. Expérimenter dans le sens de vivre au quotidien. Mais on va voir aussi, on va parler ensemble ce matin de ce qu'est la restauration. Comment Dieu restaure les cœurs et les vies. Comment Dieu est capable d'aller te chercher au plus profond de ta vie. Là où tu penses que personne ne connaît. Et comment Dieu est capable d'aller te rencontrer au plus profond de ta vie et te dire « Je viens te chercher et je t'appelle par ton nom. Je t'aime comme tu es et je veux t'amener à expérimenter la restauration. » Amen. Je crois qu'on passe tous par des phases dans nos vies où il y a des moments où on se dit « Mais où est Dieu ? Que fait-il ? Où est-ce que j'en suis avec Dieu ?» Et je suis intimement persuadé que dans notre vie, s'il y a la vallée de l'ombre de la mort, il y a aussi la suite du texte du psaume 23 qui nous parle des eaux paisibles. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite remarque, une petite parenthèse, en disant qu'il y a deux visions qui souvent s'opposent dans notre conception de la vie chrétienne. Nous pensons parfois que nous sommes amenés à avoir une vie qui sera que souffrance. On doit souffrir parce que c'est le chemin par lequel Christ est passé. Alors il faut qu'on souffre toute notre vie. Et je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec une personne qui dit « De toute façon, moi c'est mon lot. Toute ma vie je vais souffrir. » Parce que Job a souffert, parce que on nous dit tel un bon soldat souffre. Parce que Élie a souffert. Et on voit que simplement la seule vision qu'on a, c'est que la souffrance détermine notre vie. Et puis, à cette vision-là, on va opposer une autre vision, qui est celle d'un triomphalisme exacerbé. On crie partout « Dieu est ma victoire », on crie partout « Je suis délivré », alors qu'au fond de nous, on ne l'est pas. On essaye de se convaincre avec des versets alors qu'il n'y a rien qu'à changer à l'intérieur. Et on essaye de se dire « Mais oh, oui, Dieu est ma victoire, mais ta galère, elle est toujours là. » Et il y a deux visions qui s'opposent. Et en réalité, je ne crois pas vraiment qu'elles s'opposent. Mais je pense qu'elles doivent être complémentaires. Un des grands dangers par lequel on peut passer, c'est celui de dire que notre vie est déterminée par notre souffrance. Et ça, ce type de vision, va nous amener à une seule chose. Douter de la capacité de Dieu à agir. Elle va amener à ce qu'on appelle le fatalisme. De toute façon, c'est comme ça. Et je suis fait pour être comme ça. De l'autre côté, quand on est dans un triomphalisme exacerbé, on se convainc de choses qui ne sont pas encore. On entend des prédicateurs qui disent « il faut saisir la victoire », mais au fond de nous, on essaye de le faire, mais il n'y a rien qui se passe. On proclame à tue-tête, mais il n'y a rien qui se passe. Et la réalité, c'est qu'à force de pousser dans ce sens-là, on finit par se laisser accuser. Parce que si on n'est pas guéri, si notre souffrance n'est pas ôtée, c'est peut-être qu'on a fait quelque chose de mal. On est culpabilisé. C'est certainement parce qu'on n'est pas assez spirituel. Certainement parce qu'on n'a pas assez de foi. Comprenez bien les deux qui s'opposent. Et Dieu va nous amener à comprendre l'équilibre parfait qu'il y a dans la dimension de la restauration. À aucun moment Dieu ne néglige notre souffrance. Mais Dieu ne nous a pas appelés à demeurer de souffrance en souffrance, et on l'a entendu dans le don spirituel de ce matin. Parce que Dieu nous a amenés à la liberté. Mais Dieu ne nous a pas demandé d'inventer des choses qui n'existent pas. Dieu nous demande d'être équilibrés au regard de la souffrance et au regard de la dimension de la restauration. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin ? Amen. Et ce matin, on va te parler ensemble du processus de restauration. Comment Dieu fait pour restaurer nos cœurs et nos vies ? Je crois en la restauration. Ok, là, tout le monde devait dire amen d'un coup, là. Je crois que Dieu est un Dieu qui restaure. Je crois que ce matin, tu peux repartir restauré. Je crois que même les fardeaux qui sont sur ta vie, Dieu peut les ôter ce matin. J'en suis persuadé, je le sais, parce que Dieu a déjà agi dans le domaine de la restauration sur ma vie. Et beaucoup d'entre vous ici avaient déjà expérimenté la restauration. Amen. Mais je crois aussi que la restauration, elle s'entretient, elle se garde. Et on va parler ensemble ce matin de Mephibosheth. Est-ce que quelqu'un connaît Mephibosheth ? Oui ? Qui connaît Mephibosheth ? Mephibosheth, comme nous le dit Philippe, c'est quelqu'un, un enfant, enfin, dans l'histoire, on va le voir évoluer, mais c'est une personne qui va être caractérisée par son infirmité. Alors j'aimerais vous parler de Mephibosheth. Est-ce qu'on peut essayer de se replacer dans le contexte de Mephibosheth ? Mephibosheth, pour vous faire un petit tableau, on est dans l'histoire avec le roi David. Tout le monde connaît le roi David ? Ouais. Et avant le roi David, c'était Saül. D'accord ? Saül avait un fils. Son fils s'appelait... J'aime bien parce qu'on n'ose pas trop répondre, on se dit, est-ce qu'on a le droit de répondre dans une église ? Saül avait un fils et son fils s'appelait Jonathan. Et le fils de Jonathan, c'est Mephibosheth. Alors, si vous cherchez un prénom pour un enfant, je vous déconseille Mephibosheth. Après, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je vous le déconseille. Parce que Mephibosheth, ça vient de Mephi, c'est celui qui lutte. Donc quelqu'un qui est tout le temps en lutte. Et Boshet, la honte. Donc ça va, pour caractériser quelqu'un, ça me paraît un peu compliqué. Alors j'aimerais vous parler de ce Mephibosheth qui commence assez mal sa vie. Je vous lis ce texte qui se trouve dans 2 Samuel 4, verset 4, qui nous parle du début de la vie de Mephibosheth. 2 Samuel 4, verset 4. La Bible nous dit, « Or Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des deux pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jisréel. Et lorsqu'on a appris ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir, et dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber. Il en était resté estropié. Son nom était Mephibosheth. » Pourquoi vous parlez de Mephibosheth ? Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a connu la dimension de la restauration, c'est bien lui. Et j'aimerais qu'on puisse, dans un premier temps, réfléchir ensemble à l'histoire d'une souffrance bien réelle. Et vous parlez d'un homme qui réellement a souffert depuis le début de sa vie. Et j'aimerais que peut-être ce matin, on puisse s'identifier, peut-être pas sur toute la vie de Mephibosheth, mais dire, mais tiens, ça c'est une partie de ma vie. C'est quelque chose qui me concerne, c'est quelque chose qui me parle. Si on regarde Mephibosheth, la première chose qu'on voit ensemble, tu peux passer la diapo, s'il te plaît, à mon avis, la télécommande ne marche pas bien, c'est un passé compliqué. Il commence sa vie avec un prénom qui signifie celui qui lutte et qui se rapproche de la honte. C'est-à-dire que, avant, parce qu'on est bien d'accord que le prénom est donné avant qu'il soit estropié, on est d'accord. Donc on lui a déjà donné, c'est-à-dire qu'on a déterminé sur sa vie que cet homme s'appellerait celui qui luttera toute sa vie et celui qui sera dans la honte. Son identité est déterminée dès le début de sa vie par des souffrances et de la difficulté. Son passé est déterminé simplement parce que quelqu'un a dit que cet enfant-là s'appellera le lutteur et celui qui souffre. Et comme si ça ne suffisait pas, le grand-père de Mephibosheth, Saül, a été rejeté par l'Éternel. Imaginez-vous l'histoire de famille. Mais si c'était que ça, et ça ne suffit pas encore, c'est que son père est tué pendant la guerre alors qu'il n'a que 5 ans. Comprenez bien que l'histoire ici de Mephibosheth, elle commence mal et très mal. Et que pour lui, son passé est très compliqué et que parfois dans nos vies, on est un peu comme Mephibosheth où c'est notre passé qui détermine l'ensemble de notre vie. On est simplement marqué par ce qui a été de ce qu'on a reçu quand on était enfant, quand tu avais 5-6 ans, par des paroles qui ont été données sur ta vie, par des choses qui ont été dites sur toi, et c'est ça qui détermine ton identité. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne va pas s'arrêter là avec l'histoire de Mephibosheth. Maintenant, continuons sur l'histoire de Mephibosheth. Si son passé est compliqué, il en est de même pour son présent. Pourquoi ? Ben, vous doutez bien qu'à l'époque, un enfant qui est handicapé, ben, son présent, il est assez limité. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de rampe à accès handicapé. Il n'y avait certainement pas de siège roulant. Il n'y avait certainement pas de possibilité de rentrer dans le tram avec d'être porté, parce qu'il n'y avait pas de tram. Et la seule possibilité qu'il avait, c'était à un moment, on va te prendre, on va te poser. La réalité, c'est que son présent, il est déterminé simplement par le fait qu'il est dépendant des autres. Dépendant uniquement des autres. Son présent, c'est « je dépends de l'autre ». Parce que je suis infirme, je dépends de ce que les autres vont bien vouloir faire de moi. Le présent de Mephibosheth, c'est qu'on lui dit « mais de toute façon, aujourd'hui, tu es inutile et inapte au travail. Tu ne peux rien faire ». Et parfois, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans nos vies, on passe par ces moments où, aux yeux des autres, la seule considération qu'on a, c'est de dire « mais t'es bon qu'à rester à la maison, t'es bon qu'à rester toute seule, t'es bon qu'à rester dans ton coin à toi, parce que tu es inapte, parce que t'as pas les compétences ». Mais encore une fois, j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas ce même regard sur nos vies. Dieu ne considère pas que tu es inapte, Dieu ne considère pas que tu es handicapé, Dieu ne considère pas, non, Dieu regarde ton cœur. Amen. Et on va en parler tout à l'heure. Mais comme si ça ne suffisait pas, parce qu'on va vraiment, on l'enfonce comme il faut, Mephibosheth. Hein. Mephibosheth, il habite à Lodébar. Quelqu'un déjà est à Lodébar ? Normal, ça n'existe plus. Il habite à Lodébar. Alors, David, lui, il habite à Bethléem. Donc, je vous fais une petite description. C'est la carte suivante, si tu peux l'afficher. Voilà ici, vous le voyez en bas, Bethléem. Et voyez où est Lodébar. Voyez la distance qu'il y a entre Bethléem, là où il y a le roi, là où il y a à manger, il y a de quoi prendre soin, et là où on l'envoie à Lodébar. Et entre nous, à l'époque, ils n'avaient pas la dernière Mercedes pour faire le chemin. Donc ils ne pouvaient pas revenir comme ça si facilement. Il y a une distance qui se crée. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Mephibosheth, étant donné qu'il est le petit-fils de Saül, on va l'envoyer là-bas. Et on va l'isoler là-bas. Et on va dire, vaut mieux que tu sois loin de David, au cas où David aurait envie de s'occuper de toi, mais pas de la bonne façon. Et il se retrouve isolé, complètement isolé de son royaume d'origine. L'isolement, le rejet, le sentiment d'inutilité. Voilà le quotidien de Mephibosheth. Et il faut bien le dire, parfois dans nos vies, quand on passe par des déserts spirituels, c'est vraiment le sentiment qu'on a, d'être tout seul. Dire, Seigneur, un peu comme Élie qui disait, mais il n'y a plus que moi. Je suis tout seul dans ma réalité. Ce matin, tu es venu peut-être et au fond de ton cœur, tu te dis, mais oui, je suis tout seul. Je suis un peu comme ce Mephibosheth, tout seul. Et je lutte. Et j'arrive pas à avancer. Et Dieu nous amène à comprendre dans ce texte-là que il y a des gens comme nous dans la Bible qui sont isolés. Mais, vous savez, non seulement son passé est compromis, non seulement son présent est isolé, mais tu peux mettre le suivant. Le problème, c'est que son futur, en réalité, est tout autant abîmé. Pourquoi ? Ben, réfléchissons. Hein. Quel est son futur ? Dites-moi, est-ce qu'il va pouvoir travailler dans les champs ? Est-ce qu'il va pouvoir être un des soldats du roi David ? Il n'a aucun futur. Il n'y a aucun espoir pour sa vie. Si on regarde ici, Mephibosheth, il n'y a aucune vision pour l'avenir, toujours dépendant des autres. Et en plus de ça, il doit porter sur sa vie un héritage assez compliqué, celui d'un grand-père qui a été rejeté et d'un père absent. Si on s'arrête là, on se dit que le pauvre Mephibosheth, il n'y a pas grand-chose pour lui dans sa vie. Hein. Je ne sais pas s'il y a des Mephibosheth dans la salle aujourd'hui. Mais j'aimerais juste te dire que c'est que le premier point de mon message. Et qu'on va voir la suite qui va nous encourager à aller de l'avant. Amen. Tu as peut-être passé à un passé vraiment compliqué. Un présent où tu n'as pas l'impression de vivre et ton futur. Je me souviens quand j'étais ado, j'étais au lycée et à un moment j'ai fini le, mon année de seconde. Et à l'époque, j'étais dans les classes, dans les sections internationales. Et moi, je voulais aller absolument en première internationale. Je voulais continuer mon cursus pour avoir le bac et le diplôme international. Et alors que je suis arrivé en seconde, j'ai une prof, certainement bien intentionnée, je ne sais pas, qui est venue me voir et qui m'a dit « Oh, vous savez, lui, bon, vaudrait mieux le remettre dans une filière normale. » Et ça m'a tellement blessé d'être considéré. C'est comme si on te dit « Mais bon, clairement, tu n'as pas le niveau, quoi. Vaut mieux que tu redescendes. Vaut mieux que tu descendes d'une marche. » Et ça m'a tellement blessé. Ça m'a tellement fait mal au cœur. Je me dis « Ok, peut-être que je ne suis vraiment pas doué. » Et en même temps, je me dis « Non, je veux quand même, je vais me battre pour ça. » Et à ce moment-là, je me souviens qu'il y a mes parents qui ont pris ma défense et qui ont dit « Mais non, non, on va quand même le mettre dans cette section-là. Et on va quand même y aller. Il va bûcher, il va travailler, ça ne va pas être facile. Mais on va quand même le mettre dans cette section-là. » Effectivement, j'ai pris ça. Et l'année de première, c'est l'année où j'ai eu les meilleures notes de toute ma vie. J'ai déplacé le 11 de moyenne. Je suis passé à 12. Mais... mais... mais j'ai vécu ces moments-là comme si une parole a été dite sur moi en disant « Mais t'es pas capable. » Et je peux vous dire que j'ai eu mon bac et j'ai eu mon bac international et c'est ça qui a fait de moi un prof d'anglais derrière. Mais il y a des fois, il y a des choses sur notre vie qui sont comme marquées où des gens ont dit des paroles, ont dit des choses sur ta vie. Tu dis « C'est ça qui doit déterminer ta vie. » Je suis pas d'accord avec ça. Il y a un moment, il faut refuser certaines paroles. On en discutait avec les aînés vendredi après-midi, pardon. On disait qu'il y a certaines paroles qu'il ne faut pas accepter. Alors, ouais, mais tu vas me dire, mais Mephibosheth, est-ce qu'il a le choix ? Ici, l'accepter ou pas ? Ben, la réalité, c'est que sa situation, elle est plutôt compliquée. Mais regardez ce texte que je vous affiche, qui suit derrière, qui nous dit, écoutez, parce que c'est vraiment encourageant, maintenant, l'Éternel qui t'a créé. Je fais une pause. L'Éternel a-t-il créé Mephibosheth ?
Yes.
Malgré son handicap ?
Yes.
L'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob, et tu peux mettre ton prénom à la place, qui t'a façonné, ô Israël, et tu peux encore mettre ton prénom, te déclare ceci, ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, ils ne te feront pas de mal, et tu ne seras pas brûlé. Ok, c'est bien de lire ça. Maintenant, c'est mieux de le vivre. Amen, et on va le vivre ensemble, on va le partager à travers mon deuxième point, tu peux afficher, qui nous parle des étapes de la restauration avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vous propose qu'on puisse faire une lecture ensemble qui se trouve dans 2 Samuel 9, verset 3, et on va aller du verset 3 au verset 8. 2 Samuel 9, verset 3, et on va aller du 3 à 8. Je vous le lis. Puis le roi, ici c'est David, lui posa la question. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Écoutez bien. Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Siba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les deux jambes estropiées. Où vit-il ? Lui demanda le roi. Siba répondit, dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Et lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. Il faut bien comprendre qu'il est le petit-fils de l'ennemi de David. Comprenez bien pourquoi cette attitude, elle est importante. David l'appela. Mephibosheth, c'est bien moi pour te servir. Et David lui dit, né aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui ? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Amen. Ici, il va se passer quelque chose, un instant T dans la vie de Mephibosheth. David va aller le chercher. Et on va voir à travers l'exemple de David comment Christ, lui, a fait pour venir nous restaurer et nous chercher. David est un type de Christ. David représente ce que Christ a fait pour nos vies. Alors on va essayer de parler ensemble des étapes de la restauration. Vous êtes avec moi toujours ? Ouais ? Super. Le premier point que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est que David va appeler cet homme par son prénom. Il va l'appeler Mephibosheth, il va l'appeler dans l'état dans lequel il est, il va l'appeler en fonction de ce qu'il est à ce moment-là. Il ne dit pas « Appelez-moi le fils de Jonathan ». Il dit « Méphibosheth ». Il l'appelle par son prénom. Tu peux mettre le premier point. Et j'aimerais vous dire simplement à travers Jean 15, 16 que la Bible nous dit « Ce n'est pas moi qui vous ai, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller et de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » David connaît celui à qui il s'adresse. David parle aussi bien de son père que de son grand-père. David ici n'a pas une considération en disant « t'es moins qu'un autre ». Pourtant, Saül était son ennemi. Mais David a toujours eu de la considération en disant « je ne toucherai pas loin de l'Éternel ». De la même façon, ici, David va appeler Méphibosheth par son prénom, par qui il est. Et j'aimerais te dire que la première étape de la restauration, c'est que Dieu t'appelle par ton prénom, par qui tu es, avec ton identité, avec tes faiblesses, avec tes maladies, avec tes manquements, avec tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et t'inquiète pas, Dieu est au courant. Parce que Dieu est au courant de nos vies. Hein. C'est le seul qui voit au plus profond de nos cœurs. Et Dieu t'appelle comme tu es. Ça ne veut pas dire qu'il veut que tu restes comme tu es. Mais Dieu t'appelle comme tu es. Dieu vient te chercher. Et la première étape de la restauration, c'est d'accepter que Dieu puisse t'appeler par ton nom. Parce que des fois, on attend que Dieu nous appelle par un autre nom, comme parfait, par exemple. Dieu ne peut pas m'appeler, je ne suis pas encore parfait. On était avec les ados, on discutait, et il y en a qui m'ont dit, mais quand est-ce qu'on peut se faire baptiser? Alors, il y en a qui a dit, bah, pour l'instant, je ne suis pas encore assez parfait. Bon, bah, je pense que tu vas attendre assez longtemps, hein, malgré tout. Parce que même moi, quand je me suis fait baptiser, je ne suis pas parfait, et encore aujourd'hui, je ne suis pas parfait, et je pense, il y a des parfaits dans la salle? Ok, c'est bon, je continue à prêcher alors du coup. Comprenons bien ensemble que Dieu ne nous appelle pas en fonction d'une perfection idéale dans laquelle on voudrait être. Que Dieu n'attend pas de toi même que tu sois quelqu'un de mieux. Que Dieu vienne chercher dans ta réalité. La première étape de la restauration, c'est d'accepter que Dieu t'appelle par ton nom comme tu es. Et ce n'est pas si facile que ça. Parce que quand Dieu nous appelle par notre nom, Dieu nous appelle aussi avec nos limites, nos faiblesses, et il les met en avant. Quand il appelle Méphibosheth, il appelle avec celui qui lutte et celui qui fait honte. Il appelle avec celui qui est estropié. J'aimerais te dire simplement que Dieu ne t'appelle pas. Et en fait, il faut juste comprendre que Dieu ne te perçoit pas à travers tes faiblesses, mais à travers ce qu'il peut faire de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que David, quand il appelle Méphibosheth, il l'appelle en fonction de ce qu'il va faire avec lui, et pas en fonction de l'état dans lequel il est. Comprenez bien, Dieu nous appelle dans l'état dans lequel nous sommes, mais il nous appelle en fonction de ce qu'il peut faire pour nous et ce qu'il va faire avec nous. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut faire ça de cette façon-là. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut remplacer le rôle de Dieu dans notre vie. Dieu nous appelle et ça émane de la volonté de Dieu vers nous. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est que, tu peux l'afficher, c'est que, il l'a déjà affiché, c'est merveilleux, c'est que Méphibosheth, c'est le petit-fils de Saül. Et Saül avait été le roi choisi. Et Saül était celui qui aurait dû rester sur le trône. Mais là, David a repris la place parce que Dieu a dit que c'était stop avec Saül. Il y a un lien de subordination entre David et Méphibosheth. Alors que Saül avait été rejeté, David, l'homme selon le cœur de Dieu, reprend la place. Et je crois, frères et sœurs, que parfois dans nos vies, ce qui empêche une restauration profonde, c'est qu'on habite encore sous le règne de Saül. Comprenez bien. On se laisse encore diriger par ce qui a fait notre passé. Et ce n'est pas une accusation que je vous dis ici, parce que je l'ai vécu sur ma vie, où j'étais souvent déterminé par ce que j'étais avant, où souvent ma vie, mon quotidien était souvent déterminé par ce que les autres pensaient de moi. Et en réalité, il y a une dimension dans laquelle on doit rentrer, c'est de dire « Seigneur, maintenant je veux me placer sous ton règne à toi et ton autorité à toi. » La restauration, c'est se tourner vers celui qui est légitimement reconnu pour nous restaurer. La souffrance ne te restaurera pas. Ton passé ne te restaurera pas. Tes blessures ne te restaureront pas. Rien de tout ça ne te restaurera. Le seul capable de restaurer, c'est celui qui a une autorité supérieure pour pouvoir le faire. C'est celui qui a une onction supérieure pour pouvoir le faire. C'est le même principe avec David. David était le seul capable de restaurer Méphibosheth. Parce que c'est lui qui a une onction. Il a été oint. De la même façon, Christ a été oint pour avoir la capacité de te restaurer. Aucune autre solution à part Christ ne peut te restaurer. Et il y a une dimension de dire, Seigneur, peut-être dans cette matinée, avant de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il y a peut-être simplement cette première question. Est-ce que je suis prêt à me remettre sous l'autorité de Christ? À dire, il n'y a que toi qui es capable de me restaurer. Pourquoi? On a pris la Sainte Cène, on a confessé que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il nous donne une vie nouvelle. Dans le don qu'on a entendu, on a entendu parler d'une nouvelle créature. Personne d'autre n'en est capable. Mais plus que ça, la Bible nous dit, dans Colossiens 2,14, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Colossiens 2,14. Christ à la croix non seulement est mort pour donner sa vie et pour nous restaurer, mais en plus il a complètement éteint les autorités, il les a détruits, il les a cloués à la croix. Et c'est la seule chose qui peut nous permettre d'être restaurés au plus profond de notre vie. Pourquoi ? Parce que le diable va toujours t'accuser avec ton passé, va toujours te ramener ton présent dans la tête et va toujours te rappeler ton futur. Alors que Dieu, lui, te dit, moi je sais qui tu es, je connais ton caractère, je sais ce que j'ai prévu pour toi et j'ai annulé ce que le diable essaie de faire avec ta vie. L'autorité de Christ, on l'a vécu quand on a pris la Sainte Cène, quand on a partagé ensemble l'autorité de Christ à la croix. Christ est mort à la croix pour nous libérer de notre passé. C'est ce que ce texte nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, et la vraie traduction, elle est en anglais, c'est du présent continu qui nous dit « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles ». C'est une restauration progressive, c'est un process, c'est un état progressif dans lequel nous rentrons. Mais il y a un point de départ, c'est celui de Christ à la croix. Alors je te pose une question, pourquoi tu vis encore sous le règne de Saül ? Et j'ai toujours été interpellé, un jour, je vous raconte quand même, on est entre nous, hein, mais un jour je vous raconte ça. Je vais faire ma petite cellule le mardi, là où j'habitais, pas à Besançon, mais encore avant, et je vais prêcher aux aînés. Et j'aime bien ma petite cellule de mamie, là, ils chantent des chants des ailes de la foi, c'est trop bon, ça fait du bien, et ils chantent à côté de la plaque, mais c'est bien, on le vit de tout notre cœur, et je me souviens, je prends ma flûte et j'essaie de jouer les premières notes, mais le gars il me dit que j'ai rien fait, j'ai rien compris, alors que je venais juste de lire la partition, mais bon, c'est pas grave. Et on chantait de tout notre cœur avec les aînés, c'était bien. Et puis le thème de mon message était celui-ci, savoir arrêter de prier. Alors là, j'ai un gars, là, un bon vieux ancien qui me dit « Ah non, 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 c'est écrit, il faut toujours prier !» Ok, t'as plus d'expérience que moi. Et en fait, je suis parti sur le texte où Dieu dit à Samuel « Quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer sur Saül ? Parce que moi, j'ai choisi quelqu'un d'autre. » Frères et sœurs, il y a des moments dans notre vie où il faut savoir arrêter de pleurer sur notre passé et dire, j'ai choisi quelque chose d'autre. J'ai prévu quelque chose d'autre. Je ne dis pas que c'est facile. Comprenez bien une chose importante, et c'est vraiment important de le souligner. Par rapport à notre passé, Dieu ne dit pas, tu vas tout oublier ton passé. Dieu dit juste, ton passé ne te fera plus mal. Comprenez bien. Quand vous êtes fait une blessure, vous avez toujours la trace de la blessure. On est d'accord ? La cicatrice de la blessure. Elle est là, mais elle te fait plus mal. Ça, c'est le processus de restauration, comment Dieu agit. Amen. La Bible nous dit, c'est le texte suivant que tu peux afficher, encore, il doit être juste après, je pense. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés. Remarquez bien la notion d'onction sur Christ, qui est la même qu'il y avait sur David. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. On l'a entendu ce matin, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil. Amen. Dieu à cette possibilité par Christ de nous restaurer parce qu'il a l'autorité nécessaire. Ça m'amène au point suivant, c'est que à travers ça, la troisième étape de la restauration, elle passe par vivre la restauration que le roi propose. Je m'explique. David va dire à Méphibosheth, viens manger à ma table. Maintenant, Méphibosheth aurait légitimement pu dire, non David, parce que j'ai pas besoin que je vienne manger à ta table, parce que c'était mon père qui était le roi, c'était pas toi. Il aurait pu refuser ce type de proposition et rester à Lodébar. Ou même d'ailleurs, David aurait pu dire, je vais t'envoyer de la nourriture à Lodébar, au fond, au fin fond là-bas. Mais en réalité, le texte nous montre ici qu'il va falloir simplement que Méphibosheth accepte de plier le genou, de renoncer à son arrière-plan et de dire « je vais manger à la table du roi parce que les mets sont bien plus succulents à Bethléem qu'à Lodébar ». Et il y a une dimension de dire « Seigneur, je veux accepter, je veux vivre ce que le roi me propose ». Parfois tu dis « mais la restauration, elle devrait passer par le fait que j'ai plus d'argent ». Mais Dieu te dit que la restauration, elle passe pas par le fait que tu as plus d'argent. Elle passe par le fait qu'il faut que tu viennes te nourrir dans celui qui donne l'argent. Amen. J'espère que je offense personne en disant ça. Mais je le pense au plus profond de mon cœur. Je crois que la restauration et le rétablissement passent par le fait de remettre Dieu à la première place. Un jour, un chanteur connu, chrétien, était en train de faire des tournées en Amérique du Sud et son prénom c'est Nick et il va voir ses parents et il dit tu sais, il vient voir ses parents, il raconte tout ce qui se passe et les parents sont contents et les parents vont dire une phrase très importante, je vous la cite. Tu sais Nick, tu reviens d'une tournée où tout se passe bien, où tu as du succès et où Dieu agit. Mais n'oublie jamais une chose, n'adore et ne glorifie pas Dieu premièrement. Adore et glorifie-le uniquement. Je crois que quand tes parents te disent ça, tu as compris. N'adore et ne glorifie pas Dieu premièrement. Adore et glorifie Dieu uniquement. Dieu nous appelle à mettre des priorités sur nos vies pour comprendre les étapes de la restauration, même si ce n'est pas évident au quotidien. Le rétablissement passe par le fait qu'on remette Christ à sa place dans notre vie. Et puis, il y a une dimension sur laquelle j'aimerais vraiment vous parler. Il faut que j'arrête avec le mot « dimension », on m'a dit que j'utilisais souvent. C'est qu'il y a un moment, David a eu une parole pour David, pour Méphibosheth. Il lui a dit « ne crains rien, ne crains rien ». Pour vivre, expérimenter la restauration, Dieu nous appelle simplement et nous dit « j'ai une parole pour ta vie ». Il y a besoin sur nos vies de paroles, il y a besoin d'une précision, il y a besoin de recevoir une parole précise, une parole qui nous encourage. Combien de fois vous avez vécu des moments où vous étiez au plus profond et là alors que vous ouvrez la Bible, vous recevez un verset, vous recevez juste une parole par SMS et cette parole correspond exactement à votre besoin. Ça vous est déjà arrivé? Amen. Où il y a une parole précise. Vous savez que la parole c'est pas un livre comme tous les autres. La parole de Dieu, la Bible nous dit, écoutez, c'est extraordinaire ce texte, elle nous dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche. Le temps, frères et sœurs, est proche de la fin. Et on a besoin d'entendre des paroles de Dieu, des rémas de Dieu, des paroles qui s'ancrent dans notre vie, sur lesquelles l'ennemi ne pourra jamais attaquer, parce que la parole de Dieu fait foi. Amen. On a besoin d'entendre la parole. Et je n'ai pas besoin de vous préciser que la parole faite chair, c'est Christ. Sa parole guérit, sa parole restaure, sa parole nous encourage. Au plus profond de ta vallée, s'il te plaît, ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas. Des fois, on a envie de dire, c'est bon, j'ai plus envie. J'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie et je la mets de côté. Mais au plus profond, ne néglige pas la parole de Dieu. Parce que quand une seule parole est donnée, elle est capable de restaurer. N'oubliez pas cette phrase. Dis seulement, et mon serviteur sera guéri. Un mot de Dieu et tu es restauré. Amen. J'en arrive à la conclusion. Les étapes de la restauration nous amènent à entendre l'appel du roi, accepter l'autorité du roi et vivre la restauration que le roi propose. Ma conclusion est celle-ci. Si le roi t'amène et te propose et te met à disposition une table pour manger ses biens, s'il te plaît, ne mange pas ailleurs. Ne va pas manger ailleurs. Parfois, on écoute plein de trucs dans tous les sens. On va se nourrir dans tous les sens. On écoute et on se dit, bon, je vais écouter telle personne parce qu'il est mieux, parce que je vais écouter telle... Et Dieu nous dit, mais ne va pas manger ailleurs. Arrête de te nourrir de ce que les gens te disent. Arrête de te nourrir des paroles des autres. Viens te nourrir de la parole qui nourrit. Amen. J'aimerais inviter l'équipe de louange à remonter et pouvoir qu'on puisse réaliser ensemble. Peut-être un dernier point, quand même, qui est aussi tout aussi important. Est-ce que quand Mephibosheth revient auprès de David, il est guéri? Il est encore handicapé, n'est-ce pas? Il est encore estropié. Mais il vient manger tous les jours à la table du roi. Mais, et regardez bien quelque chose qui est extraordinaire, ce qui va se passer. C'est que David va bien voir qu'il ne peut pas s'occuper des terres qu'il vient de lui donner. Alors il va lui donner une aide. Quelqu'un qui va l'aider à s'occuper des terres. C'est le serviteur de Siba. Le serviteur de Siba, il n'a pas une très bonne réputation. Vous lirez ses histoires. Mais juste dans ce cadre-là, j'aimerais faire un petit parallèle. Dieu sait que tu n'as pas les capacités. Mais Dieu ne te laisse pas seul. Dieu nous a donné celui qu'on appelle l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui est le Paraclet, celui qui marche à nos côtés, celui qui est avec nous, celui qui vit en nous, celui qui nous donne la force et qui nous permet surtout de maintenir la restauration. Parce que si même tu es restauré ce matin, le diable fera tout pour te voler ta restauration. Alors que la Bible nous dit, le Saint-Esprit rappelle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne te laisse pas seul. Dieu ne te laisse pas tout seul dans ta réalité. Dieu a mis en toi le Saint-Esprit afin que tu puisses faire face à toutes les réalités. Dieu a mis en toi une puissance que personne ne peut arrêter, qui va te rappeler Christ, qui va te rappeler les paroles, qui va te rappeler ton statut, qui va te rappeler et qui va te dire « Je sais qui je suis ». Amen. Et j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin. Tu es peut-être un Mephibosheth, mais Dieu voudrait te restaurer. Comment ? Simplement, écoute l'appel du roi. Accepte son autorité sur ta vie. Et vis la restauration. Nourris-toi chaque jour de qui il est. Saisis les paroles de Dieu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble et peut-être reprendre ce chant qu'on a chanté tout à l'heure ? Et j'aimerais qu'on simplement qu'on prenne un temps. On n'est pas en retard et qu'on puisse se centrer sur un temps particulier ce matin. Et alors qu'on est tous réunis, on est là, peut-être ce message ne te concerne pas spécialement et tu dis, moi, je vis dans la restauration et merci Seigneur, tant mieux. Vraiment, je t'encourage à laisser le Saint-Esprit chaque jour te renouveler. Peut-être que tu es venu ce matin et tu te sens comme Mephibosheth. Et dans ton cœur, tu te dis, mais moi, mon passé était tellement compliqué. Mon présent, alors je ne te parle pas de mon avenir. J'ai tellement été blessé, tellement été condamné. Et Dieu voudrait t'amener simplement à expérimenter la restauration ce matin. À entendre la voix de Dieu. À entendre l'appel du roi. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux sur le repas qui est en face de toi. Qu'au sein de ta détresse, tu puisses considérer combien Dieu agit. Qu'au sein de ce moment, ce désert spirituel, tu puisses expérimenter la pluie bienfaisante du Seigneur, de Christ. Et si peut-être c'est ton cas ce matin, je t'inviterai simplement à te mettre debout à ta place. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être restauré ce matin. Il n'y a pas de jugement les uns envers les autres, c'est vraiment personnel. Dire, Seigneur, tu vois l'état dans lequel je suis. Tu connais mon besoin de restauration. Mais dans cette matinée particulière, je vais expérimenter la restauration que seul toi peux donner. Je veux à nouveau accepter que ce matin, tu puisses me parler. Je veux à nouveau accepter de croire tes paroles. Je veux à nouveau accepter que quand je lis la Bible, je saisisse tes paroles. Dans cette matinée, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu comme message pour moi. Seigneur, dans cette matinée, je veux comprendre que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, je veux expérimenter la restauration. Alléluia, Jésus. Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui s'est levée. Seigneur, ensemble, on a besoin de te connaître davantage, de connaître ta parole, de connaître ta direction sur nos vies. Et Seigneur, je veux vraiment prier pour que le Saint-Esprit, maintenant, vienne consoler les cœurs. Vienne renouveler les cœurs fatigués. Vienne inonder les déserts spirituels. Vienne tracer un chemin là où il n'y a aucun chemin possible. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont en proie au doute, à l'incrédulité. Seigneur, ce matin, viens toucher leur cœur à nouveau. Seigneur, viens toucher, que ta présence, Seigneur, restaure les cœurs. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli, on peut s'approcher du trône de la grâce et saisir les bénédictions qui coulent d'en haut. Tu le dis, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, je te prie pour un temps de renouvellement spirituel dans les cœurs. Un temps de renouveau, Seigneur, pour les cœurs asséchés. Seigneur, je te prie, Seigneur, que la restauration soit sur le cœur. Merci, Père éternel, parce qu'encore aujourd'hui, ton œuvre n'est pas finie. La restauration, ce n'est pas un temps qui sera pour plus tard, ça peut être dès aujourd'hui. Merci pour l'œuvre que tu as fait pour nous. Seigneur, je veux te dire à toi soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.